Avant de commencer, je vais faire quelque chose d'un peu particulier. Ne vous inquiétez pas, ne vous culpabilisez pas, c'est pas un examen. Qui est célibataire et n'a jamais été marié dans cette salle? D'accord? Qui est marié? Qui a été marié? Qui est marié avec un non converti? Ouais. Qui est veuve? Donc, pas de veuve dans la salle, gloire à Dieu. Mais tout ça pour vous montrer que même si vous êtes des femmes, vous êtes différentes, bien entendu, au niveau de votre personnalité, et puis aussi différentes à cause de votre vécu. C'est au travers de ces deux sphères, si vous voulez, que l'on peut se comparer, se différencier. Nous avons des goûts, des personnalités, des envies, des choses qu'on n'a pas envie de faire. On a aussi un appel particulier du Seigneur, nous grandissons à notre mesure. Donc ça c'est nous sommes des créatures uniques. Vous êtes des créatures uniques. Et puis, au-delà de cela, cette vie ici-bas a fait que vous avez un parcours qui est unique aussi. Et c'est lié à la fois à votre personnalité, au choix que vous avez fait, et puis aussi c'est lié au choix que d'autres ont fait à votre endroit, à votre égard, et puis aussi c'est lié au choix de Dieu. C'est-à-dire que Dieu intervient aussi dans notre parcours, faut pas l'oublier. Et pour ma part, ça m'a pas trop posé de questions lorsque je me suis converti, mais c'est une question que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils se convertissent parfois. Ils se disent, pourquoi moi? Pourquoi moi je suis sauvé? Et pourquoi mon voisin d'à côté ne l'est pas? Donc à la fois, ça nous amène dans une forme d'adoration. On remercie Dieu pour ce privilège d'être sauvé. Puis en même temps, on se dit, mais pourquoi que moi? Pourquoi pas l'autre? Et puis, alors que nous traversons des épreuves, parfois, on se dit, pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi? Vous savez, on entend parler d'accident de la route. Moi-même, j'ai le privilège, je crois, de jamais en avoir eu. Je crois pas. Mais une fois, on était avec mon épouse, il y a longtemps de cela, sur l'autoroute. Il y avait eu un accident peut-être quelques secondes sur l'autoroute avant qu'on arrive. Et donc, la voiture était retournée. Et vous aviez une personne qui était complètement allongée sur le bord, évanouie ou morte, j'en sais rien. Une autre qui était complètement hagarde, qui était en train de se relever. Et puis, vous dites... ça aurait pu être ma voiture. Pourquoi moi? Et quand et eux qui étaient dans la voiture, ils ont pu se poser la question, pourquoi nous? Donc c'est toujours comme ça la vie. C'est-à-dire que nous qui ne connaissons pas toutes choses, mais qui les subissons parfois, les choses, on peut se dire, pourquoi moi? Pourquoi je suis célibataire? Pourquoi je suis veuve? Pourquoi je suis marié à quelqu'un qui n'est pas converti? Pourquoi je suis marié à quelqu'un qui est converti mais que je n'aime plus? Pourquoi? Et lorsque l'on se pose ces questions sans avoir le point de vue de Dieu, ça peut nous amener dans un état dépressif, spirituellement parlant. Vous avez des personnes qui ont plein de problèmes avec autrui, et c'est dur pour eux, puis d'autres qui aimeraient avoir des problèmes avec autrui, mais autrui n'est pas là. Donc c'est pas simple. Non mais est-ce que c'est vrai ou pas? Je veux dire, c'est la réalité des choses. Nous sommes ce que nous sommes. D'accord, avec nos hauts et nos bas. Mais déjà, j'aimerais commencer par lire un extrait de la parole de Dieu. C'est dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6. Alors l'Ecclésiaste, il dit des choses qui sont parfois insensées, parce que il nous parle de l'homme sans Dieu. Mais là, il dit quelque chose de très intéressant, qui est une lapalissade. Hein. C'est évident, mais c'est bien de se le rappeler. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Là, c'est intéressant parce que je rappelle qu'à l'époque, le chien, c'était pas le toutou à sa mère qu'on aimait bien. Le chien, c'était comparable à un chacal, à une hyène. C'est un animal impur. Donc, en gros, il vaut mieux un animal impur vivant qu'un lion, hein, plein de force, le roi des animaux, mais mort. Donc, je relis, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Vous voyez, c'est très intéressant là de ce passage, parce que quand on se pose la question pourquoi moi, ou pourquoi ces difficultés, ou pourquoi je n'arrive pas à traverser ces difficultés correctement, pourquoi je ne suis pas assez patient, pourquoi je suis amer, pourquoi je me sens mal aimé, pourquoi je me fais avoir dans tel ou tel domaine, ou avec telle ou telle personne. Et on se sent misérable, et on est désespéré. Mais il y a un espoir, c'est que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire que Dieu a permis que nous soyons encore vivants aujourd'hui. Je vous ai posé une question à toutes là, tout à l'heure, en vous demandant votre arrière-plan, votre vie, quel est votre état. Donc il y a des différences, mais par contre il y a un point commun, c'est que vous êtes toutes vivantes. Et comme vous êtes toutes vivantes, vous avez un autre point commun, c'est que vous pouvez espérer, parce que vous êtes vivantes. Et ce point, en tant que croyant, doit évidemment être accentué, bien entendu, pour un non-chrétien aussi. Hein, je veux dire, non-chrétien, il peut se dire, il y a encore de la vie, il y a encore de l'espoir, d'accord ? On peut, en tout cas, de l'espoir pour cette vie ici-bas. Mais nous avons encore un avantage, c'est que non seulement si cet espoir ici-bas ne se manifeste pas, il y a un espoir dans l'éternité, de toute manière. Qui en plus me donne une sécurité et un confort encore plus grand, c'est que cette espérance à venir, après la mort, ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que, pour donner une illustration, ici-bas, j'ai une vie qui est ma maison. Et cette maison, je dois collaborer avec Christ pour qu'elle soit en bon état. Mais la maison qui m'attend là-haut, son état ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que je vais arriver, tout sera fait, tout sera accompli. Donc c'est pour ça que j'ai un espoir extraordinaire. Là-haut, il n'y aura plus ni mort, ni larmes, ni péché, ni désespérance. Ce sera vraiment... tout sera nouveau. Donc non seulement il y a de l'espérance pour celui qui est en vie, mais il y a une plus grande espérance pour celui qui a reçu la vie éternelle. Vous vous rendez compte ? Nous avons reçu la vie éternelle. Et c'est ça dont il faut... s'occuper quand nous avons des difficultés. Vous savez, puisque nous sommes dans une étude biblique pour les femmes, prenons des exemples de femmes dans la Bible. Vous avez Sarai, qui pendant des dizaines et des dizaines d'années est stérile. Et gloire à Dieu pour elle, qu'elle ait pu avoir un mari patient. D'ailleurs, pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible, même si je le comprends, mais vous allez voir où je veux en venir. C'est qu'Abraham, d'après ce que nous savons, a toujours été fidèle envers son épouse, même quand il n'était pas sauvé, même quand il n'avait pas rencontré l'Éternel. Dans le contexte de sa culture, il aurait très bien pu aller chercher une autre femme. Et il ne l'a pas fait. Et moi, mon idée, c'est qu'il avait déjà une révélation dans sa conscience du Dieu vivant, et déjà, il marchait avec une droiture, et c'est pour ça que Dieu, à 70 ans, est allé le chercher. Mais par contre, la folie, c'est qu'après avoir reçu les promesses, il est allé voir Agar. Vous voyez, comme quoi, même en tant que chrétien, on doit faire attention, on n'est pas mieux. Des fois, on peut être pire dans nos actions. La subjectivité peut s'introduire dans la vie d'un chrétien alors qu'elle ne s'était pas introduite, alors qu'il ne connaissait pas Christ. Ça peut paraître paradoxal, mais ça arrive. Mais toujours est-il que, pour revenir à Sarai, imaginez, elle avait un mari qui était fidèle, c'est super, mais en même temps, une angoisse et une honte peut-être dans la culture où elle était, ne pas avoir d'enfant. Elle a pu se poser la question, bien des fois, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Il y a une chance sur des milliers d'être stérile, et c'est tombé sur moi. Vous avez Anne, qui elle aussi désespérait d'avoir un enfant. Dans un autre contexte, là ça ne nous parle pas de la stérilité, mais ça nous parle des circonstances, Esther. Pourquoi ça tombe sur Esther ? Parce que ce qui est très intéressant, et ça nous montre qu'on ne peut pas juger des événements de façon objective, parce que qu'est-ce qui a fait que Esther a été choisie par le roi ? Sa beauté, c'est ce que toutes les femmes rêvent d'avoir. Quelqu'un à la même époque qu'elle, à Babylone, dans les mêmes circonstances, avait peut-être un nez énorme, louchait, et avait les oreilles décollées, et pouvait se dire « Pourquoi moi ?» Mais après, remercier Dieu parce que au moins elle n'a pas été choisie par le roi. Se marier avec un païen, avec celui qui a détruit notre ville, notre temple. Donc vous voyez, où est la vérité? Comment je dois voir les choses? Esther, elle était belle, et sans doute grâce à sa beauté, elle devait se dire, mais je vais avoir un mariage super, j'aurai le choix, je vais pouvoir, j'aurai pas de problème. Et puis patatrac, un jour on l'enlève, on l'emmène, et il y a un jury, et voilà, elle est choisie. Alors évidemment, elle est couverte d'honneur, et en même temps, elle qui est pieuse, elle vit une épreuve extraordinaire de se marier avec un païen. Et Mardoché a cette sagesse, c'est son tuteur spirituel, son mentor, si vous voulez, a cette sagesse, plus tard, de lui dire, qui sait si Dieu ne t'a pas placé là? C'est-à-dire que Esther était en vie. Et comme elle était en vie, il y avait une capacité pour la vie de Dieu de venir dans sa vie. Et à un moment donné, alors que le peuple allait être exterminé, elle a sauvé la vie de son peuple. Indirectement, c'est Dieu qui a sauvé la vie de son peuple, nous le savons, mais indirectement, par sa foi, par sa piété, par son obéissance dans l'adversité, parce qu'elle a accepté de la part de son oncle Mardoché cette vérité, qui sait si tu n'as pas été choisi pour ce jour-là. Et à ce moment-là, elle s'est peut-être sentie comme une chienne, ou elle a peut-être eu l'impression de s'être mariée avec un chien, un païen, un goy, comme on dit, dans le milieu juif, quand on se marie avec un nom juif. Mais, qui sait si elle n'a pas été choisie, et nous le savons que ça a été le cas, pour amener la vie sur un peuple nombreux. Donc vous voyez, nous avons tous des circonstances différentes, mais nous avons la possibilité de vivre la vie qui est peut-être difficile, mais pas de le vivre selon une fatalité. Et là, quand j'utilise ce mot fatalité, j'en parle de façon péjorative, si vous voulez, parce qu'il y a une bonne fatalité, par exemple, qui n'est pas forcément réjouissante, mais qui est vraie. Si je nais, ça signifie que je vais mourir. C'est fatal. Je veux dire, entre les deux, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais là, il y a une fatalité objective. Mais il y a une autre fatalité qui est de dire, un événement intervient et je ne peux plus rien faire, il n'y a pas d'espoir. Je suis obligé peut-être de serrer les dents. Et pour moi, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. C'est la fatalité. Alors, voilà, on accepte les choses sans s'attendre à Dieu. Or, dans la vie chrétienne, cette notion-là de fatalité n'existe pas. Vous savez, dans la langue arabe, il y a mektoub. Vous connaissez peut-être ce mot, mektoub. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le destin. En fait, littéralement, ça veut dire « il est écrit ». Ou c'est écrit en français, on traduirait par c'est écrit, mektoub, c'est écrit. Nous aussi, nous pouvons dire c'est écrit, mais pas concernant notre vie, parce que nous avons des choix à faire. C'est que nous avons, il y a des choses devant lesquelles on ne peut pas lutter, mais au milieu de ces choses, on peut les vivre différemment, sans être fataliste. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous parcourez la Bible, il y a plein d'expressions « il est écrit »,« c'est écrit », mais la plupart du temps, cette expression, elle est utilisée pour parler de l'œuvre de Dieu. C'est dans ce sens-là où c'est écrit. Jésus va aller sur la croix, c'est écrit. Jésus doit ressusciter des morts, c'est écrit. Jésus va juger les vivants et les morts, c'est écrit. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la Bible concerne Dieu, parce que Dieu, il sait ce qu'il va faire. Mais nous avons à faire des choix dans cette vie présente. Dieu, lui, dans l'éternité, il a inspiré les auteurs de la Bible pour écrire des choses qui allaient arriver après. Donc, dans ce sens-là, c'est écrit. Mais nous, à l'intérieur de ce plan, tout n'est pas écrit. C'est-à-dire, et alors vous allez me dire, mais alors Dieu ne peut... C'est la grande discussion entre la prédestination et le libre arbitre de l'homme. Moi, je ne veux pas essayer de résoudre ce problème. Mais l'homme a des responsabilités, sinon il n'aurait pas besoin d'être jugé. Ce serait injuste de juger un irresponsable. Et ce qui est très intéressant, pour vous montrer que Dieu à la fois inspire une phrase, c'est écrit, et en même temps, tout au long de la Bible, il essaye de passer des alliances avec les hommes. Et certaines d'entre elles sont conditionnelles. Ce qui signifie qu'il attend une réponse de l'homme. Ce qui signifie que tout n'est pas écrit. Une alliance avec Adam, si tu ne manges pas de ce fruit, vous allez rester ici pour l'éternité. C'est écrit, mais en même temps, c'est une alliance qui doit être vécue. Et si l'homme n'accepte pas de la vivre, cette alliance, oui, c'est vrai, l'homme mourra. Ça, c'était écrit, mais ce n'était pas inéluctable. Et de la même manière, nous, en tant que chrétiens, nous avons des tests, nous avons des épreuves, mais ce n'est pas écrit que l'on doit forcément tomber dans une dépression, dans une pitié de nous-mêmes, dans une désespérance, dans une mauvaise image de soi. Ça, ce n'est pas écrit du tout. L'épreuve, oui, peut-être, parce qu'elle est peut-être voulue par Dieu. Dieu a voulu que Esther soit dans ces conditions-là. Mais ce n'était pas écrit qu'elle se soumette. Elle a fait des choix. Et nous, de la même manière, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, et il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui sont dans des circonstances plus difficiles que d'autres. Ça, je veux dire, le christianisme, ce n'est pas le communisme. On ne peut pas dire, comme on est tous chrétiens, on est tous heureux pareil. C'est pas ça. C'est pas ça. On a une mesure de grâce différente. Mais, ça c'est écrit. Mais en revanche, les épreuves que nous traversons, parfois c'est nous qui les avons provoquées, parfois c'est quelqu'un d'autre qui les provoque. Prenez quelqu'un comme David. Bon, bah, on lui a couru après pendant 7 ans. Il a subi des épreuves à cause de la désobéissance d'un autre. Donc c'était écrit qu'il serait roi, mais c'était pas écrit que ça allait être dans des circonstances comme celle-là. Mais David a accepté à chaque fois de traverser ses épreuves en s'appuyant sur le Dieu vivant. Et ce qui fait qu'il a mis sa volonté en action, si vous voulez. Vous savez, avec le temps, là aussi c'est de la palissade, mais je suis obligé de vous parler de mon expérience. C'est le fait que je sois plus vieux maintenant que certaines, bah, c'est bien que je vous fasse part de cette expérience. Mais vous savez, en 15 ans, on en a vu passer des gens dans l'Église. Et notamment des hommes, on en a vu passer. Et je me dis, certains, s'ils avaient fait des bons choix, aujourd'hui, ils vivraient une vie merveilleuse. Dieu leur avait donné une capacité, des dons, un zèle, une soif, qui à un moment donné a été mise au côté. Peut-être que ça reprendra, mais en attendant, je trouve ça dommage. Parce que ce n'était pas écrit qu'ils soient dans cet état-là aujourd'hui. Parce que Dieu avait prévu autre chose. Donc, tout ça pour vous dire que, tant qu'on a de la vie, il y a une espérance. Ce qui est intéressant là, c'est que le mot espérance, en hébreu, ça part de, vous savez, au verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ça peut être aussi en français traduit par confiance. Et ce qui est très intéressant, sécurité. C'est-à-dire que la confiance ou l'espérance que nous avons, nous en tant que chrétiens, elle renferme aussi cette notion de sécurité. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une provision pour moi dans cette vie. S'il n'y a pas la provision de moi, je suis désécurisé, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que dans les épreuves, ou au contraire, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on n'a peut-être pas assez d'épreuves, mais qu'est-ce qui fait que dans notre vie, on est démoralisé parfois, c'est parce que nous n'espérons pas dans la vie que nous avons. Donc nous ne sommes pas en sécurité. On doute de l'amour de Dieu pour nous, on doute de l'amour de Dieu des autres pour nous, on doute de nos capacités, on doute de tout, on n'est pas en sécurité dans cette vie. Alors qu'en réalité, Dieu nous dit, vous êtes vivant aujourd'hui, il y a une espérance. Vous vous sentez comme un chien? Oui, mais vous êtes vivant. Nous, on aimerait être des lions. Mais Dieu dit, oui, mais un lion mort. Et vous savez, dans cette vie, parce que je ne veux pas rentrer dans un misérabilisme chrétien, parce que je crois que Dieu peut et veut bénir les chrétiens, selon son plan, mais dans cette vie, il y en a qui se régalent plus que nous, peut-être. En tout cas pour un temps. Il y en a qui sont des lions dans cette vie. Mais Dieu a été chercher les chiens. Ça, rappelez-vous, cette femme syrophénicienne qui est interrogée par Jésus et les apôtres. Et elle dit, oui, mais les chiens, ils peuvent même manger les miettes. Nous sommes des chiens, mais nous avons une nourriture céleste. Nous avons une provision de grâce pour nous. En Job 14, versets 7 à 12, il y a une pensée très intéressante. Job 14, versets 7 à 12. Car il y a de l'espoir pour un arbre. Alors regardez ça, c'est beau. S'il est coupé, alors là, ça veut dire coupé au niveau des branches, hein. S'il est coupé, il repoussera encore. Et ses rejetons ne cesseront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, et si son tronc meurt dans la poussière, l'odeur de l'eau, il poussera, et il fera des branches comme un jeune plant. Mais l'homme meurt et gît là, l'homme expire, et où est-il? Les eaux s'en vont du lac, et la rivière tarit et sèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relève pas. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, il ne se réveille pas, et il ne se réveille pas de leur sommeil. Ça, c'est l'état de l'homme, sans Dieu, sans espérance. Au chapitre 27, verset 8, il est dit « Car quelle est l'espérance de l'impie, donc celui qui ne croit pas, quand Dieu le retranche, quand Dieu retire son âme ?» Vous voyez, le vrai désespoir, en réalité, c'est ne pas avoir Dieu. Quel espoir reste-t-il à l'homme lorsque Dieu le retranche, quand Dieu retire son âme ? Il n'y a plus d'espoir. Mais nous, nous avons reçu Dieu. Nous, nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons la possibilité de le connaître ici-bas. On connaît ce verset, Romains 8, 28. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ce qui est très intéressant, c'est que nous voyons dans le livre de Job, je vais citer quelques passages, mais Job, à un moment donné, va se poser des questions sur le pourquoi de tout ce qui lui arrive. Et lui aussi a dû se poser la question, pourquoi moi ? Pourquoi moi, qui en une journée va perdre tous ses enfants, tous ses troupeaux, toutes ses richesses, et le soir va devoir se gratter avec un tisson le dos tellement il souffre ? Pourquoi moi ? On n'aurait pas pu partager un petit peu toutes ces souffrances là ? Il n'y a pas assez de gens. Mes amis, là, ils n'auraient pas pu porter un peu de souffrance là, au lieu de m'enquiquiner maintenant et de m'accuser. Pourquoi moi ? Parce que Job avait besoin d'apprendre certaines choses. Il avait besoin d'apprendre la vie. Et un passage très beau au chapitre 42, donc à la fin du livre, je vous lis ce verset en version Darby, c'est au verset 6. Job 42, verset 6, il est dit « C'est pourquoi j'ai horreur de moi » et je me repens dans la poussière et dans la cendre. En second, c'est traduit, c'est pourquoi je me condamne. Vous voyez, Dieu parfois nous amène au bout de nous-mêmes parce qu'il y a une forme de justice propre qui est en nous. Le problème de Job, c'est qu'il était un petit peu orgueilleux. Hein? On le voit au début du livre, il sacrifiait à l'Éternel, et puis aussi il sacrifiait pour ses enfants. Voilà, il était un homme très spirituel. Et parce qu'il était très spirituel apparemment, il l'était, mais il avait besoin d'apprendre certaines choses, c'est qu'il pensait que du coup, Dieu n'avait pas besoin de travailler dans sa vie. Tout allait bien. Et quand tout lui tombe dessus, là il est désespéré, parce que c'est quelqu'un de pieux, qui non seulement pense à sa vie avec Dieu, mais en plus il intercède pour les autres. Il donne sa vie pour les autres. Et résultat de cela, il perd tout. Mais là il comprend au chapitre 42, il dit, second traduit par « je me condamne », mais je préfère la version Darby, il dit « c'est pourquoi j'ai horreur de moi ». Vous savez, parfois Dieu nous amène à avoir horreur de nous-mêmes pour que nous puissions espérer en Dieu. Ne pensez pas qu'avoir horreur de vous, dans ce sens-là, c'est-à-dire de haïr la chair, votre vie a de la valeur, vous avez du prix aux yeux de Dieu, vous valez le prix du sang, que le sang de Christ que le Christ a versé pour vous, il a versé son sang, c'est le prix de votre vie. Mais dans la chair, pour découvrir les grâces de Dieu, nous avons besoin parfois d'arriver au bout de nous-mêmes. Et les épreuves de la vie engendrent forcément un espoir, c'est que je vais rencontrer Dieu. Je vais découvrir Dieu. Il va se passer quelque chose. Dans la souffrance, c'est vrai, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Et pourtant, il y a une espérance, parce que nous le savons par le Saint-Esprit, nous avons la possibilité de rencontrer Dieu dans les difficultés. Vous savez, il y a souffrance et souffrance. Il y a la souffrance que nous subissons et qui est parfois dure, que ça soit physiquement ou aussi psychologiquement, spirituellement, des gens qui parlent contre nous, qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Dans un couple, on a aimé quelqu'un, on a vécu 20 ans avec quelqu'un et puis la personne nous trahit. C'est vraiment dur. Mais il y a une autre souffrance qui est, que nous vivons, qui est réelle, mais qui en même temps est liée au regard que nous avons sur la vie, et ce regard n'est pas bon. Vous voyez ? C'est-à-dire que, et notamment, il y a cette idée que si dans ce monde, je ne suis pas au-dessus de la moyenne, ma vie ne vaut pas grand-chose. Et du coup, ça mène de la souffrance. Par exemple, la beauté. Je sais, il vaut mieux être beau que moche, je suis conscient de cela. Mais en même temps, mais que veut dire beau ? Bien sûr, c'est difficile lorsque les gens se moquent de nous, ne s'intéressent pas à nous. Voilà, ça peut être dur. Mais c'est quoi la beauté ? Ben, j'aimerais qu'on me donne une définition parfaite de la beauté. Je peux vous garantir que, déjà, je peux poser la question à plusieurs personnes, les réponses ne seront pas les mêmes. Et heureusement. Sinon, si pour parler que des hommes, on se jetterait tous sur la même fille. D'accord ? Donc, heureusement qu'il y a des goûts différents. Donc, ça veut dire que déjà, la beauté est différente. Nous sommes tous uniques. Nous avons tous des goûts différents. Et donc, la beauté est unique aussi. Et, encore une fois, aller dans les musées et voir quel était le canon de la beauté dans les siècles passés, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc, où est la vérité ? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une souffrance. Mais ça n'a rien à voir avec les critères de Dieu quand même. C'est-à-dire qu'il nous faut accepter une souffrance temporaire et temporelle, et en même temps avoir l'assurance par la foi que de toute façon, ma vie ne dépend pas de cela. Ça me fait à la fois souffrir, parce que je préfère être accepté que rejeté, mais en même temps, je sais que dans l'absolu, il y a un Dieu qui m'aime et qui est mort pour moi, et qui a une autre beauté aussi. Et je dois accepter les deux dans ma vie. Pourquoi je vais choisir un critère de beauté et pas l'autre? Il y a le critère des hommes. Si le critère des hommes et le critère de Dieu peuvent être vécus en même temps, super, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pareil au niveau de nos choix. Vous pouvez être dans une entreprise où le critère, c'est de voler son prochain, de le rouler, de lui raconter des mensonges, de dire que la commande est partie alors que ce n'est pas vrai, par exemple, ou de vendre un produit qui n'est pas bon ou qui est trop cher. Ça, ce sont des critères. Ben, en tant que chrétien, on ne peut pas vivre ce critère-là, parce que Dieu nous a donné d'autres critères. Donc il vaut mieux être dans une entreprise où il y a une bonne morale chrétienne, des principes corrects et bibliques, et qui correspondent à notre vie avec Dieu. Là, c'est super. Mais parfois, ce n'est pas possible. Donc nous avons des choix à faire. Quel critère je vais choisir ? Le critère de ce monde, et je fais des compromis avec Dieu, ou le critère de Dieu, et je vais vivre le rejet des autres ? C'est un choix. Que ce soit au niveau de la beauté, que ce soit au niveau de la morale, au niveau de l'intégrité, il y a des contradictions que nous devons accepter. Elles sont là. Nous devons les vivre, les assumer. Et ça peut amener de la souffrance. Mais il y a un espoir, c'est que cette vie ne s'arrête pas là. Donc en attendant, je vais tout faire pour glorifier mon Dieu. Qui sait si Dieu ne m'a pas mis à cet endroit-là pour le glorifier ? Et donc il y a une espérance dans cette situation. Vous voyez, je vais marcher par la foi. Or, nous avons souvent une idée de notre vie, on met de la valeur dans notre vie, alors que Dieu la place pas n'évalue pas notre vie selon les mêmes critères. Regardez, et quand Paul parle aux Corinthiens, les Corinthiens avaient, eux, cette tendance à croire que voilà, on est béni, on a des dons, etc. Donc, comme on est bien dans ce monde, ça veut dire que Dieu est forcément avec nous. Regardez ce que Paul dit. En 2 Corinthiens 4, versets 7 à 12, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, ça c'est beau, mais non dans le désespoir. » Vous voyez, ça c'est l'objectivité chrétienne. Entre parenthèses, c'est une clé des fois pour conseiller les gens qui sont dans la douleur. Là, Paul ne nie pas qu'il est dans la détresse, mais il n'est pas dans le désespoir. Quand on conseille quelqu'un, ce n'est pas de lui dire « Oh, mais tu sais, ta détresse, elle est passagère ou c'est rien. » D'accord ? C'est un peu comme quand un enfant se fait mal, vous savez, il tombe, il pleure, puis on lui dit « Oh, mais c'est rien, c'est pas grave. » Ben oui, mais en même temps, il a mal, il pleure. Donc, ça ne l'arrange pas de savoir que c'est rien. Évidemment, nous, c'est quelque chose s'il faut aller à l'hôpital. Mais bon, si c'est écorché le genou, même si ça pique, c'est rien. Mais pour lui, c'est la fin du monde. Donc, et c'est pareil dans la vie des gens. Hein. Certains disent « Oh, mais c'est rien ». Non, s'il le vit, subjectif ou pas, s'il le vit comme une détresse, c'est une détresse, mais pas dans le désespoir. Vous voyez la différence ? Quelle est la différence entre la détresse et le désespoir ? C'est que dans la détresse, il y a un espoir. Dans le désespoir, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire que je suis dans la détresse, mais je sais qu'il va y avoir une porte de sortie. Donc, j'accepte ces moments. Alors, pour certains, c'est une vie. Mais il y a un espoir. Alors que le désespoir, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, Paul dit ça, il dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, et on sait ce que ça voulait dire à l'époque, mais non abandonné. C'est paradoxal. Non abandonné, pourquoi ? Parce que Christ est avec eux. Abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Et ça, c'est le point clé. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand Jésus était sur la terre, il a accepté la mort pour glorifier le Père. Et en acceptant la mort pour glorifier le Père a glorifié le Fils et l'a ressuscité. Eh bien, nous, spirituellement parlant, nous vivons cela. C'est-à-dire que nous ne pouvons, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a des situations où nous ne pouvons pas porter la vie de Christ si on ne porte pas à la fois la mort de Jésus. Il faut porter les deux. Or, on est dans un christianisme aujourd'hui où on nous fait croire que le chrétien doit porter la vie de Jésus, mais pas la mort de Jésus. Et que le chrétien doit toujours être souriant, joyeux, et nier les problèmes, nier les maladies, nier les circonstances. Et du coup, ça rend les chrétiens irresponsables. Parce que quand vous niez un problème, vous ne faites plus de choix. Et donc, vous prenez de mauvaises décisions parfois. Or, rien n'est fatal. Dieu accomplit son plan au travers des choix que nous faisons. Donc, le chrétien a besoin à la fois de ne pas nier les problèmes pour faire de bons choix, mais en même temps, qu'il porte la mort de Christ, il porte la vie de Jésus en même temps. Et donc, il y a la vie de résurrection. Et c'est ça qui fait que la vie de Dieu, non seulement nous remplit, mais se répand autour de nous. Et donc, ce n'est pas un hasard si vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez vous poser la question sans arrêt en disant « Pourquoi moi ?» Mais ça, c'est pas la bonne question et ça n'amènera pas une bonne réponse. En revanche, si je suis appelé à vivre une situation, je suis peut-être qu'un vase de terre, je suis peut-être qu'un chien, mais je suis vivant. Mais je porte un trésor en moi. Et donc, il y a une possibilité pour moi d'être encouragé, d'être béni. Ça peut paraître paradoxal et pourtant c'est vrai. Vous savez, car nous vivons, je continue ce passage, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Voilà, les deux. Les deux. La mort agit et la vie agit. Et ce n'est pas contradictoire, selon ce que Paul nous dit. Vous voyez comment la parole de Dieu peut nous rendre objectifs par rapport aux circonstances. Esther, il y a la mort qui agit en elle. Pourquoi moi ? Pourquoi cette circonstance ? Mais parce qu'elle s'est attachée à Dieu, la vie a agi aussi en elle. Joseph, pourquoi moi ? Abandonné par sa famille, trahi par tout le monde, la mort a agi en lui. Mais la vie a agi en même temps. C'est extraordinaire ça. C'est la vie chrétienne. Jésus, la vie, la mort a agi en lui. Mais en même temps que la mort agissait, la vie agissait. Or, trop souvent, parce qu'on ne médite pas assez aussi, puis l'homme est comme ça, on voit notre vie uniquement qu'à une dimension. J'ai que ma vie et il faut que ça se passe bien. Non, j'ai ma vie et il y a la vie de Dieu, il y a le plan de Dieu, il y a quelque chose qui me dépasse. Je ne comprends pas tout. J'arrête de me poser la question pourquoi, mais je me dis, Seigneur, la mort agit, mais je sais qu'en m'agrippant à toi, la vie va agir en même temps. Vous savez, j'avais jamais vu, vous connaissez le verset, le fameux chapitre d'Hébreux 11 sur les héros de la foi. C'est pour vous montrer comment il ne faut pas évaluer notre vie correctement. Enfin, il faut évaluer notre vie de façon correcte. En Hébreu 11, il est parlé des héros de la foi, et au verset 37 et 38, il nous est pas parlé de quelqu'un en particulier, là ça décrit des héros de la foi en général. Hébreu 11, 37 et 38, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, et regardez ça, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, c'est-à-dire ils étaient mal habillés, ils étaient à l'écart, Jean-Baptiste par exemple, Esaïe, Élie, hein. Donc ils erraient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et regardez ça, eux dont le monde n'était pas digne. C'est extraordinaire ça. C'est-à-dire que vous avez une description horrible, persécutés, torturés, et ils erraient dans les cavernes, ils étaient habillés avec des peaux de chèvre, pour dire autrement, ils sentaient très mauvais, d'accord, quand ils apparaissaient quelque part. Eh bien, dans leurs conditions, malgré cet état-là, selon ce monde, le monde n'était pas digne d'eux. C'est beau, c'est une belle, un beau qualificatif pour parler d'un croyant. Donc, eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Voilà ce qu'étaient ces gens. Des chiens. Mais des chiens vivant pour Dieu. Des chiens qui saisissaient la vie de Dieu. Et parce qu'ils saisissaient la vie de Dieu, Paul, enfin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, moi je pense que ça doit être très inspiré par Paul, mais en tous les cas, l'auteur de l'Épître nous dit, le monde n'était pas digne. Et nous, souvent, vous savez comment on se voit? On n'est pas digne de ce monde. Je réussis pas. Je suis pas assez joli, je suis pas assez riche, j'ai pas réussi dans mes études. Je ne suis pas assez bien pour ce monde. Et d'ailleurs, le monde me le rend bien, il me juge. Et alors, j'ai mon identité de là-dedans, et puis ça me rend triste. Et Dieu dit, mais c'est le contraire, c'est toi qui n'es pas digne de ce monde. Et c'est pour ça que je t'ai arraché du monde. Pour ça que je t'ai sauvé du monde. Pour t'amener dans un monde meilleur. Dans un monde où tu auras ta place. Parce qu'en réalité, mes amis, nous sommes dignes du monde qui nous attend. Nous sommes dignes du monde qui nous attend. Un monde où il n'y aura ni larmes, ni péché, ni crainte, ni peur, ni mort, rien de tout cela. Et nous sommes dignes de cela. Et ça, c'est la vraie dignité. C'est la vraie valeur que nous avons. Donc, il est important, en tant que croyant, que nous ayons toujours cette relation de confiance et personnelle avec un Dieu qui s'occupe de nous. D'accord ? Ce n'est pas « il est écrit », c'est comme ça, c'est une fatalité. Dieu a voulu me mettre... Pourquoi je suis né en France ? Bah voilà, Dieu a voulu. Pourquoi je suis né à... Je vis à Paris ? Bah Dieu l'a voulu. Pourquoi je suis dans telle situation ? Bah voilà, c'est Dieu qui l'a voulu. Et mektoub, hein, c'est écrit. Et puis là, on ne vit plus par la foi, on ne fait plus de choix. On ne vit pas selon le peuple de l'Alliance. Une alliance que Dieu fait avec l'homme et qui dit « Est-ce que tu veux marcher avec moi ? Est-ce que tu veux être mon ambassadeur ? Est-ce que tu veux intercéder pour les autres ? Est-ce que tu veux m'adresser tes prières ? Est-ce que tu veux annoncer la bonne parole aux autres ? D'accord ? Parce que ça, c'est pas écrit. C'est à toi de saisir cela. C'est à toi. Et à ce moment-là, on écrit une histoire avec Dieu. Et ça, c'est pas la même chose. Tout comme Joseph a écrit une histoire avec Dieu. Esther a écrit une histoire avec Dieu. David a écrit une histoire avec Dieu. Ceux qui portaient des vêtements de peau de chèvre, ceux qui étaient dans les cavernes, ceux dont le monde n'était pas digne, ne sont peut-être pas écrits dans les livres d'histoire pour certains. Mais ils sont dignes du royaume à venir et ils ont écrit une histoire avec Dieu. Et donc, ils se sont dit, « Merci Seigneur que ça soit moi. » Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et merci de m'avoir choisi moi. Merci de m'avoir aidé à répondre à ton appel, à ta grâce. Merci Seigneur. Et même si je dois porter la mort dans mon corps, je sais que je vais porter la vie dans ce corps mortel. Parce que j'ai un trésor dans un vase de terre. Pour le dire autrement, regardez au trésor et pas au vase.